Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Technologie.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 25e épisode du podcast Interstice. Notre invité du jour est directeur de recherche émérite à l'INRIA Sophia Antipolis Méditerranée. Avec lui, nous allons parler d'écologie comportementale. Donc, la discussion va porter sur ce que les mathématiques peuvent nous apprendre sur le comportement des espèces vivantes. Pierre Bernard, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît dans le monde de la recherche pour vos nombreux travaux sur la théorie des jeux dynamiques. Quel est le rapport entre ce domaine et l'écologie comportementale ?
L'un et l'autre parlent de comportement optimal, pour autant que ce mot ait un sens, ou rationnel, dans des processus qui évoluent avec le temps. Jeu dynamique, le mot dynamique veut dire que ça évolue avec le temps. Et quand vous intéressez au comportement des espèces animales, les espèces sont en compétition entre elles, et donc vous avez des mécanismes de jeu, d'équilibre, de type théorie des jeux.
Alors pourquoi s'intéresser au comportement des espèces vivantes en tant que mathématicien, automaticien ?
Alors, il y a dans votre question deux plans. Il y a pourquoi s'intéresser au comportement des espèces vivantes ? Et pourquoi le faire quand on est mathématicien ? À la première question, si je voulais faire de la science pure, je dirais pour savoir, pour connaître. Mais il y a aussi des intérêts tout à fait pratiques. Un des procédés pour protéger les cultures de maïs contre le principal ravageur des cultures de maïs, qui est la pyrale du maïs, un papillon, est de répandre des trichogrammes. C'est une petite guêpe qui fait à peine plus d'un millimètre de long. Et les trichogrammes pondent leurs œufs dans les œufs de la pyrale. Et quand un œuf de pyrale a ainsi été parasité, ce qui émerge de l'œuf, c'est une trichogramme, c'est pas une pyrale, et cette trichogramme n'est pas un inconvénient dans les cultures. Et donc vous avez éliminé ce nuisible qu'est la pyrale du maïs.
Ça participe finalement à la lutte biologique.
Absolument, mais j'aurais pu aussi vous parler de comprendre le comportement des populations de poissons pour savoir comment il faut les laisser se reconstituer quand il n'y a plus de poissons adultes dans les bancs de poissons. J'aurais pu vous parler de la répartition des espèces végétales dans les forêts et de comprendre comment régénérer une forêt en ne faisant pas d'erreur dans la façon de la maintenir. Il y a des tas d'endroits où l'homme, pour agir, a besoin de comprendre comment la nature répond à des stimuli. Et pour ça, il faut comprendre le fonctionnement de la nature. Maintenant, pourquoi s'intéresser à ça quand on est mathématicien ? Ça, c'est peut-être le grand étonnement. Là, la réponse tient au rôle de la sélection naturelle dans l'évolution. Si on admet que les espèces qu'on observe sont le résultat d'une évolution, cette sélection naturelle va avoir sélectionné les espèces les plus efficaces du point de vue reproductif. Parce que sinon, si on pouvait être un peu plus efficace par un comportement, disons, voisin, une mutation aurait produit une autre espèce qui aurait été plus efficace et qui aurait éliminé celle qu'on observe. S'il en est ainsi, le comportement des espèces vivantes a un caractère d'optimalité au sein d'une niche écologique, et si c'est vrai, alors en faisant des calculs d'optimisation, on peut dire quelque chose sur le comportement des espèces vivantes. L'étonnant, c'est que ça marche.
Et alors, en quoi est-ce pertinent de se servir des mathématiques pour savoir comment une espèce animale va chercher sa nourriture, par exemple ?
Alors, le fondement, je le disais, c'est de se dire qu'en raison de l'influence de la pression sélective exercée par l'évolution, il y a un caractère d'optimalité, probablement, dans le comportement des espèces. Et donc, si on arrive à capturer dans un modèle mathématique ce qu'on pense être les déterminants essentiels de l'efficacité reproductive et les paramètres dont on cherche à savoir quelle valeur ils ont, on doit pouvoir dire quelque chose sur le comportement. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que la nature est une variété extraordinaire. Pour moi, qui ne suis qu'un mathématicien, découvrir le domaine de la biologie, c'est quelque chose de fascinant par la variété des choses qu'il y a. Mais c'est tellement varié que vous ne savez pas quoi observer. Et des calculs mathématiques vous incitent à découvrir des régularités, des relations de dépendance. Quand on fait plus ceci, il se passe plus cela, ou quand on fait moins ceci, il se passe moins cela. Donc, vous faites ce calcul mathématique, vous en déduisez une dépendance, une propriété, vous allez voir si elle existe.
Quand vous dites « vous allez voir si elle existe », vous, ce sont les biologistes ?
Bien sûr, et alors là, il faut être d'une modestie absolue par rapport à mes collègues biologistes. Faire des expériences ou des observations in vivo de qualité, c'est extraordinairement difficile. Si ce qui se passe est conforme à ce que vous avez calculé, vous dites « Ah ah, j'ai donc trouvé quels sont les éléments pertinents, importants dans l'efficacité reproductive de cette espèce. » Si, au contraire, vous n'observez pas ce que vous avez calculé, eh bien, c'est que vous êtes trompé. Il y a des phénomènes plus importants qui ne sont pas ceux que vous avez mis dans votre modèle. Votre modèle est toujours un choix des phénomènes qu'on met dedans et ceux qu'on ne met pas. Et si vous n'observez pas ce que vous avez calculé, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Et donc, ça vous dit quelque chose encore en biologie. Il y a autre chose que ce que vous croyez qui est important dans l'efficacité reproductive de cette espèce. Et enfin, il y a le cas ultime. Vous avez trouvé quelque chose, une régularité, qui s'observe dans beaucoup d'espèces, et un jour, vous tombez sur une espèce où ça ne s'observe plus. Et vous dites, celle-là, elle a quelque chose de différent des autres, puisque toutes les autres se comportent comme vous l'aviez prévu par votre calcul, et celle-là se comporte différemment. Et donc, il y a un retour sur la biologie qui vient de la confrontation des résultats des mathématiques à la nature.
Mais justement, dans la nature, on a quand même des processus biologiques très différents et très variables d'une espèce à l'autre. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on puisse appliquer des modèles à quelque chose d'aussi aléatoire.
Alors, je prends un exemple qui est celui que je connais le moins mal. Je l'évoquais déjà, le comportement de ponte de cette petite guêpe millimétrique qu'on appelle une trichogramme, en train de pondre ses œufs dans les œufs de la pyrale du maïs. Les œufs de la pyrale du maïs sont disposés en agrégat, on dit une haute plaque. Et une des questions qu'on se pose, c'est au bout de combien de temps la trichogramme, cette petite guêpe, va partir et quelle proportion d'œufs encore sains a-t-elle laissé ? Parce que les derniers, elle n'arrive plus à les trouver. Il y a tellement d'œufs déjà parasités dans son agrégat qu'elle n'arrive pas à trouver les derniers qui sont encore sains et elle s'en va. Eh bien, cette situation où un insecte va pondre ses œufs dans les œufs d'un autre insecte, déjà ça concerne beaucoup d'espèces. Et puis en fait, vous pouvez généraliser beaucoup plus loin parce que c'est chaque fois qu'un animal doit trouver une ressource qui est disposée en agrégat. Et quand il trouve cette ressource, il va en prélever une certaine fraction. Plus il en a prélevé, plus c'est difficile de trouver ce qu'il reste de la ressource. Au bout d'un moment, il s'en va sans avoir tout prélevé. Et donc, ça s'applique très bien au modèle de ponte sur un agrégat d'œufs, mais ça s'applique également à, par exemple, observer un papillon butineur en train de butiner un assez gros bouquet de fleurs. Et vous le voyez qu'il va de fleur en fleur. De temps en temps, il rentre dans une fleur, il ressort tout de suite. C'est parce que la fleur a déjà été butinée. De temps en temps, il rentre, il reste un petit moment. C'est parce que celle-là est en train de la butiner. Et il tourne autour de son paquet de fleurs, un peu au hasard, et puis au moment, il s'en va. C'est exactement le même processus.
Et donc, par rapport à l'observation que les biologistes peuvent faire sur le terrain directement, y a-t-il un apport supplémentaire des mathématiques ?
J'en ai douté pendant assez longtemps. Mais maintenant, j'ai la réponse, et c'est celle que j'ai essayé d'esquisser tout à l'heure, c'est qu'elle suggère des relations de cause à effet ou des concomitances de phénomènes qu'on va pouvoir aller observer dans la nature et qui vont être un objet d'observation intéressant et qu'on n'aurait pas eu l'idée de rechercher si on n'avait pas eu ce calcul mathématique. Je donne un exemple, je reviens à mes trichogrammes et à mes œufs de pyrale du maïs, Ostrinia nubilis pour les intimes, avec mon étudiant Frédéric Hamelin.
Dans une thèse co-encadrée par Eric Weinberg, le collègue de l'INRA qui m'a initié à tout cela.
On a montré, par un calcul d'optimisation dynamique, ça s'appelle de la programmation dynamique, c'est typiquement le genre de choses qu'un automaticien sait faire, et on a montré que quand l'animal, la trichogramme, le parasitoïde, la petite guêpe, était plus âgée, elle devrait rester plus longtemps sur le paquet d'œufs et laisser moins d'œufs non parasités. Ça, c'est le calcul d'optimisation qui le montre. On est allé l'observer dans la nature, c'est un collègue canadien qui a fait ça, Guy Boivin, au Québec, et il a effectivement constaté, sur un autre couple d'espèces d'ailleurs, que les animaux plus âgés, les parasitoïdes plus âgés, restaient plus longtemps et parasitaient une plus grande proportion du paquet d'œufs que les plus jeunes. Aucun de mes collègues biologistes n'avait eu l'idée de regarder cette relation entre âge du parasitoïde et taux de parasitisme d'un agrégat. Parce que pourquoi aller chercher ça ? C'est parce que les mathématiques nous ont indiqué qu'il devait y avoir cette relation qu'ils sont allés la voir. Alors à quoi sert-elle ? Je ne sais pas, très honnêtement. Mais vous savez, le scientifique, quand il a trouvé quelque chose qui existe, qui est vrai, il est toujours content.
Et à l'inverse, est-ce que le fait de s'attaquer à de telles questions biologiques a fait avancer ou progresser les mathématiques ?
Chaque fois qu'on aborde avec sérieux un domaine d'application nouveau, on tombe sur de nouveaux problèmes mathématiques. Alors, quand je dis avec sérieux, c'est parce qu'il y a une façon pas sérieuse d'aborder un problème d'application. Eh bien, c'est quand vous disposez, vous, d'un outil mathématique que vous maîtrisez bien, de l'appliquer, quoi qu'il arrive, et coûte que coûte, à quelques sujets qu'on vous pose. Mais si vous êtes sérieux, c'est-à-dire que vous prenez le problème tel qu'il est, vous parlez avec le physicien, le biologiste, la personne qui connaît intimement la nature et qui a une question à poser, et vous essayez de faire un modèle autour de ça et de répondre aux questions qui se posent, vous tombez toujours sur des problèmes mathématiques nouveaux. Et avec un peu de chance, si vous avez choisi des domaines où vous avez l'impression que c'est un domaine où vous avez quand même de l'expérience sur le plan mathématique, alors vous arrivez à progresser, à trouver des choses. Mais je reviens sur cette affaire de parasitisme, donc de trichogramme, qui a été l'exemple que j'ai privilégié. Et mon étudiant Frédéric Hamelin a fait une thèse extrêmement brillante, mais le problème n'est pas fini, on n'est pas arrivé tout à fait au bout. Il nous reste des problèmes ouverts au plan mathématique qu'on n'a pas résolus, liés au superparasitisme, c'est-à-dire à la possibilité que plusieurs petites guêpes pondent leurs œufs dans le même œuf de la pyrale. Pour l'agriculteur qui fait du contrôle biologique, il suffit d'un seul œuf de trichogramme pour tuer son œuf de pyrale. Donc s'il y a deux trichogrammes différentes qui pondent dans le même œuf de pyrale, c'est du gâchis. On veut comprendre s'il y a des circonstances qui vont faire que ce comportement va se présenter.
Et donc comprendre les déterminants du superparasitisme.
Voilà.
Pierre Bernard, le mot de la fin.
Jacques Williams, qui est un nom que je ne prononce que debout, expliquait au début de quand on s'intéressait au global change, c'est-à-dire au modèle global de changement du climat sur la Terre, il s'y est intéressé très tôt, il expliquait qu'il fallait absolument commencer par regarder des phénomènes à assez court terme pour qu'on puisse aller vérifier dans la nature, sur le climat réel, si ce qu'on calculait était conforme à ce qui se passait. Parce qu'il disait, tu comprends, si tu prédis l'apocalypse pendant 200 ans, même si tu te trompes, la sanction n'est pas très grave.
Merci Pierre Bernard d'avoir accepté cet entretien. Ce podcast est maintenant terminé. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.